lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur, tu es froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude.
Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre, oui, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col. Comme d'habitude.
Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer en perçant dans. Comme d'habitude, je fais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre.
Je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mais là, je les cacherai. D'habitude,
comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras.
Voilà, c'était le trio Rachida, Khaled et Fodel qui nous reprenaient comme d'habitude.
Actualité culturelle, prix des libraires. Fanny Mallette et Catherine Trudeau animaient hier soir à l'Olympia le premier gala de l'Association des libraires du Québec, une soirée sous le signe de la littérature avec en prime une prestation de Tire le Coyote, grand amoureux des livres. C'est Nathalie Collard qui signe l'article dans la presse d'aujourd'hui, catégorie roman. La bête creuse de Christophe Bernard l'emporte. Alors, entrevue, quelle a été votre réaction en apprenant que vous remportiez ce prix? De la reconnaissance avant tout, de la gratitude et de l'humilité aussi, il n'y a pas vraiment d'autre façon de prendre ça, je pense. J'étais vraiment content et cela me motive à travailler et à continuer. J'ai travaillé pendant 10 ans sur ce premier roman, alors ça clôt ce long processus de belle façon. Un prix attribué par des libraires, qu'est-ce que cela signifie pour vous? J'ai l'impression de rejoindre une belle famille. Les libraires restent aux barricades du marché du livre et c'est vraiment formidable d'être backé par eux. Moi, je suis une bébite de librairie. J'aime bouquiner et quand je voyage, c'est la première chose que je repère dans une nouvelle ville. En fait, je fais du tourisme livresque. Voir mon livre protégé par ces professionnels, ça fait chaud au cœur. Il vous a fallu 10 ans pour écrire ce premier roman. Devrons-nous attendre aussi longtemps pour le second? Je suis déjà lancée dans un nouveau projet. J'ai commencé un deuxième livre alors que j'écrivais le premier. Il y a eu un chevauchement, donc j'ai déjà gagné 1 an. Entre parenthèses, rire. Le fait de recommencer à écrire avec pas mal d'expérience acquise aide aussi. La Bête creuse a été l'école de l'écriture pour moi. Là, je me sens un peu plus en possession de mes moyens. Et en 10 ans, j'ai eu le temps de remplir des carnets de notes et de faire mousser mes idées. Le roman « La bête creuse » de Christophe Bernard est publié aux éditions Le Cartanier. Les autres lauréats. Julie Rochelot a remporté le prix des libraires dans la catégorie BD Québec pour « Betty Boob », publié chez Casterman, un album qui raconte avec humour une histoire de cancer du sein. Scénarisé par Véronique Cazot, « Betty Boob » a également remporté le prix BD Fnac 2018 en janvier dernier. Dans la catégorie BD hors Québec, le lauréat est Bastien Vivez pour son très beau roman graphique « Une sœur », publié aussi chez Casterman, qu'on a qualifié de cinématographique. Une très belle histoire sur les premières amours. C'est Jonathan Durand-Folco, professeur adjoint à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa, qui remporte le prix dans la catégorie « Essai » pour « À nous la ville, traité de municipalisme », publié chez Éco-Société, un plaidoyer pour le pouvoir local. René Lapierre emporte le prix des libraires dans la catégorie poésie pour son très beau recueil « Les adieux » publié aux Herbes Rouges, son 11e. Le thème « L'amour ». Aimer, c'est effrayant. Aimer est effrayant, mais c'est notre seule chance, notre dernière, je veux dire. Dans la catégorie roman hors Québec, le gagnant est l'auteur suédois Jonas Gardell pour « N'essuie jamais de larmes sans gants » publié chez Gaïa, dont le comité de sélection a souligné le caractère important, bouleversant, essentiel. Un film de Desjardins sur Frédéric Chopin. Après avoir lancé plusieurs documentaires engagés au cours des années, Richard Desjardins change de cible pour son prochain projet de film. Le musicien travaille sur un documentaire à propos d'un artiste qui l'a toujours fasciné, Frédéric Chopin. Au-delà de son œuvre musicale, Richard Desjardins s'est bâti une très belle carrière de documentariste avec L'erreur boréale, Le peuple invisible et True Story ces dernières années. Rencontré par le Journal de Montréal à l'occasion de la réédition de l'album Boomtown Café du groupe Abitibi, le musicien a mentionné qu'il se penchait sur la vie du mystérieux compositeur polonais. « Il m'a toujours fasciné, dit-il. Tout le long de ma vie, j'ai lu à son sujet sans trop en apprendre vraiment sur lui. Je me demandais qui était ce gars-là. C'était un gars chétif de 110 livres qui avait ma grandeur. Comment une puissance pouvait sortir de ça? » Cet automne, Richard Desjardins prévoit s'envoler à Varsovie, en Pologne, pour retourner sur les traces de Chopin. « J'ai toujours rêvé d'y aller », dit-il. Il tournera son documentaire qui n'a pas de date de sortie avec les productions du Rapide Blanc. Après avoir sorti des documentaires aux propos revendicateurs, Richard Desjardins changera nettement de créneau cette fois-ci. « Ce n'est pas du tout la même affaire », reconnaît-il. « Mais beaucoup de musiciens s'intéressent à Chopin. J'ai déjà parlé de Chopin avec Oliver Jones. » Il me disait que partout où il allait dans le monde, il avait tout le temps les valses de Chopin dans ses valises. Avec ce film, il ne faudrait toutefois pas penser que Richard Desjardins tourne le dos à ses projets environnementaux. « Je suis encore avec Action Boréale, dit-il. On est dedans par-dessus la tête, mais pas sous forme de documentaire. On travaille à créer des aires protégées pour garder un peu de nature. Je rêverais de faire un documentaire qui expliquerait pourquoi j'ai fait l'erreur boréale. Ce serait comme un film de pure beauté sur la forêt boréale. L'humour sera plus présent que jamais cet été et au début de l'automne dans le Grand Montréal. Deux événements ont annoncé hier une nouvelle programmation comprenant des humoristes. D'abord, l'événement Mile XN, qui en sera à sa deuxième année, consacrera une journée complète à l'humour lors de son deuxième week-end le 8 septembre. Appelée Mile XN Rigole, la journée comique mettra en vedette pas moins de 30 humoristes sur diverses scènes, dont Mehdi Boussaïdan, Julien Lacroix, Rosalie Vaillancourt, Adib Al-Kaïdé, Virginie Fortin, Guillaume Wagner, Corinne Côté, Stéphane Fallu et Sexe illégal. Depuis un bout, on ne s'amuse pas tant que ça dans le monde de l'humour à Montréal, a dit Claude Larrivé, l'un des producteurs du Mile XN. On a décidé d'arriver avec un vent de légèreté. On veut mettre en valeur la nouvelle génération de stars en humour. On veut faire une super bamboula, une super fiesta. On pense que ça va être le Woodstock de la nouvelle génération en humour. Qu'un jour, on se rappellera que tous ces talents-là étaient la même journée dans un seul lieu à Montréal. Alors que son premier week-end de festivité en sera un musical, comme l'an dernier, avec des spectacles notamment de Broken Social Scene, The Bar Brothers et Tire le Coyote, le Mile XN réaménagera l'espace sous le viaduc Van Horn et le deuxième week-end pour son volet humour. On va avoir des petites scènes avec des chaises, dit Claude Larrivé. On va recréer des mini-clubs ou des mini-théâtres à l'extérieur. Un nouveau festival d'humour a aussi été lancé hier à Laval. Appelé Laval en rire, Laval laugh, l'événement se déroulera du 20 au 30 septembre et proposera des spectacles en français et en anglais. Parmi les humoristes confirmés, il y aura Mario Jean, Olivier Martineau, Eddie King, Neve et Mélanie Couture. À 71 ans, Sylvester Stallone va ressortir son couteau de chasse pour une cinquième mission de Rambo, l'ancien combattant de la guerre du Vietnam. L'acteur américain a mis en ligne mardi une illustration sur son compte Instagram où le vétéran apparaît genou au sol, son fameux couteau à la main. « Quelque chose de terrible se prépare », écrit Sly sous la photo avec la mention « Rambo 5, automne 2019 ». Les producteurs en sont à vendre les droits du long-métrage à l'international au marché du film qui se tient en marge du 71e Festival de Cannes. Le tournage devrait commencer en septembre et passer par Londres, la Bulgarie et les îles Canaries, selon le Hollywood Reporter. Le film verra John Rambo sortir de sa retraite après l'enlèvement d'une jeune fille par un cartel mexicain spécialisé dans le trafic sexuel. Et finalement, France Baudouin fait un retour aux grandes entrevues. « Pour emporter » sera le titre de sa nouvelle émission d'une heure par semaine qui sera diffusée sur ICI-RTV dès le 17 août à 20h. Pour l'instant, 20 rencontres sont prévues à la grille. Aucun nom d'invité n'a été dévoilé. Le fil conducteur de cette émission, ce sont les mots. Dans la vie, on est la somme des mots qu'on a entendus, lus, dits ou même tus par moment, explique France Baudouin. Le public pourra assister aux enregistrements et possiblement repartir avec des œuvres dispersées dans le décor et dont il aura été question durant l'émission, que ce soit des livres, des partitions ou des textes de théâtre. D'où le titre de l'émission, réalisé par Guillaume Saint-Arnaud. Antoine Graton accompagnera l'entrevue au piano chaque semaine, en plus de signer le thème de l'émission.
Ça s'appelle la nouvelle scène. Alors, la différence qu'il y a entre la nouvelle scène et la vieille scène, c'est le parquet. C'est tout. C'est tout.
Oh,
Nouvelle scène, nouvelle scène. La nouvelle scène se rêve, la nouvelle scène se tient debout, à tout bout de champ. Nouvelle scène. Pour rentrer dans l'histoire d'une chanson, il faut un verre, à boire et l'imagination. À leur place, vous feriez quoi comme chanson? À leur place. Mais eux, sont-ils à leur place? Sont-ils de ceux qui savent que tout ça n'a qu'un temps?
Nouvelle scène. La nouvelle scène vient d'un nouveau pays. Pas celui de Lori, ni celui de Pani, non. La nouvelle scène, c'est la nouvelle scène. Le genre Agnès Bill, parlez-moi de Kali, de Fersen, de Diams et de Berry, de MC, d'Anis ou d'Anaïs. Et laissez-moi faire un slam. Un slam pour mes vieux potes d'Ayam.
Nouvelle scène, moi je dis que ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qui restera dans 30 ans de tout ça? Brel, Brassens ou Ferré, les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître?
Nouvelle scène, nouvelle scène. Un peu comme Olivia, la femme au chocolat. À Bastille et autour, chez les bobos du jour, tu me dis.
Salut toi, ça va?
Eh oui, ça va. Et dis-moi, qu'est-ce que tu aimes toi?
Moi, j'aime les chansons de M.
Alors puisque c'est comme ça, moi, je te de l'herbe.
À la faveur de l'automne, y a Tété qui résonne. Amélie les crayons se barrent avec du tronc. Thomas, je veux dire, palper, c'est comme de l'herbe, palper. Ou bien Chédid, palper. Ou bien Noël, palper. Ouais, palper Noël. Je sais, y en a plein d'autres, des dizaines, des centaines. Le problème quand on slame, c'est que ceux qu'on ne cite pas se sont oubliés et te font un procès.
Nouvelle scène, nouvelle scène. Moi je dis que ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qui restera dans 30 ans de tout ça? Brel, Brassens ou Ferré, les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître?
Le problème quand on slame, c'est que ceux qu'on ne cite pas se sentent oubliés et te font un procès. Mais après tout, peu importe, on s'en fout.
On s'en fout.
On n'y va pas.
On n'y va pas.
On n'a qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas.
Toi, la télé et moi.
Ouais, toi, la télé et moi. Et Benabar, mais qui voilà?
Mais c'est Chéral, la petite puce, et son nouveau voisin, Renan Luce.
Et puis Pauline Croze, cette pétale de rose, Daphné et Simon, Émilie IE de son prénom.
L'Y est pour l'oiseau, Émilie l'oiseau.
Et San Severino, as-tu vu Clarica?
Camille n'est pas là, Diams est arrivé.
Avec Mickey 3D,
Miossec et les têtes raides.
Et Arnaud et Bogart.
Et Aldebert et Adrienne.
Pauline! Tout le monde fait la fête dans la rue, la rue est à nous, la rue qui est à nous. Les ombres de Barbac et Dominique, ah! Et Arthur. H et Raphaël
et la tête
Alouette
et Bruel.
Quoi Bruel? Et il fait du cinéma.
Nouvelle scène, nouvelle scène. Moi je dis que ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qui restera dans 30 ans de tout ça? Brel, Brassens ou Ferré, les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Nouvelle scène, nouvelle scène. Moi je dis que ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qui restera dans 30 ans de tout ça? Brel, Brassens ou Ferré, les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Nouvelle scène, nouvelle scène. Moi je dis que ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qui restera dans 30 ans de tout ça? Brel, Brassens ou Ferré, les nouveaux sont-ils nés?
Chanson plus bifluoré et le slam de la nouvelle scène.
Alors allons-y avec le Festival de Cannes, un article d'Odile Tremblay qui est là-bas, 71e édition. Denis Villeneuve en son palais. Le réalisateur et scénariste québécois mesure toute la responsabilité d'être parmi le jury de la compétition. Quand Denis Villeneuve était venu présenter Sicario en compétition à Cannes en 2015, le stress et l'angoisse n'étaient jamais bien loin. C'est à double tranchant. Une sélection ici évoque-t-il. Il y a deux portes et tu ne sais jamais laquelle tu vas prendre en sortant. Porte de l'enfer ou porte du paradis, c'est selon. Après une critique assassine, le cinéaste se retrouve sur le grill. Sinon, il flotte. En attendant, il tremble. Cette année-là, Xavier Dolan était membre du jury. Également Jake Gyllenhaal, un de ses acteurs et amis, tout comme les frères Coen avec qui il partage le même directeur photo. Sicario n'avait rien récolté in fine. C'est la règle du jeu, les films de genre se retrouvent rarement au palmarès. Encore chanceux d'être sélectionné, lance-t-il philosophe. Cette fois, après avoir accepté de participer au jury de la compétition, le cinéaste de Blade Runner 2049 a éprouvé une sensation de détente. Puis en arrivant, j'ai senti un autre stress, celui de la responsabilité. Je prends mon rôle au sérieux. On était quelques journalistes québécois au palais venus mercredi rencontrer notre compatriote et il nous avait prévenu d'entrée de jeu, ne me posez pas de questions sur les films de la course. Présent à Cannes depuis dimanche, il a pu déjà casser la glace avec ses acolytes lors d'un dîner d'accueil. Au début, c'était assez solennel, explique-t-il. Thierry Frémaux, le délégué général du festival, et Pierre Lescure, son président, nous ont expliqué les règles à respecter. On doit se taire, car la moindre blague peut être interprétée, se transformer en oui-dire, nuire au film. Lors de ce dîner, il a senti des complicités s'établir avec les autres membres du jury. C'est excitant pour moi. Tout le monde est très ouvert, mais personne n'est dans l'ego. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour défendre des films. C'est un exercice d'intuition. Et qu'a envie de défendre Denis Villeneuve? Les cinéastes qui vont avoir l'audace de faire évoluer le langage cinématographique, même si parfois ils ne réussissent pas totalement leur coup, répond-il. J'aime la prise de risque, la poésie. Le réalisateur entend se placer devant un film avec le regard vierge. Il ne lit rien sur sa proposition. Ignore s'il s'agira d'une production d'horreur ou d'une comédie. Lors de la cérémonie d'ouverture, quand ils ont présenté des extraits des films de la course, j'ai fermé les yeux. Je veux à peine savoir leur titre. Pas question non plus pour Villeneuve de lire les critiques diffusées au long des 10 jours du festival. Ne rien connaître d'un film me procure un choc que je trouve intéressant. Il aurait quand même aimé voir concourir un cinéaste québécois, mais ça ne s'est pas fait. Lorsque le jury a gravi les marches du palais à l'ouverture, les hommes et les femmes se sont mélangés. On voulait être une seule voix. Une crainte l'étreint. Je trouve que tout est vu sous la lorgnette post-Weinstein, alors qu'on va juger des films qui parlent de plusieurs réalités sur divers points de vue. Il se promet de les évaluer au mérite et sans parti pris. Le voici à Cannes en une année apparemment charnière avec défections de Netflix et de certaines productions américaines qui préfèrent lancer leurs films durant les festivals automnaux plutôt qu'au printemps. Les Américains sont très superstitieux, constate cet habitué d'Hollywood. Les derniers succès aux Oscars sont passés par Venise, alors. Cela dit, on a souvent reproché à Cannes de présenter de façon récurrente les mêmes noms. Cette année, ils n'ont pas fait ça, ce qui démontre une vitalité, un goût du risque. Ce festival comme vitrine du cinéma d'auteur est très important. Mais où s'en vont ces films d'auteur ensuite? Sur Internet. Et si les grands écrans n'allaient plus projeter que du Disney? Ne rien connaître d'un film me procure un choc que je trouve intéressant. Alors, c'est une citation que je vous ai déjà mentionnée, de Denis Villeneuve. Des inquiétudes le tenaillent. Mes films sont conçus pour le grand écran, qui est un tableau d'une immense ampleur. Pour un téléphone, tu ne réalises pas de la même manière. Or, les films se « YouTubisent », entre guillemets. Toute une réflexion reste à faire sur la présence à l'écran. À moins qu'ils aient conçu leur projet avec cette plateforme, plusieurs cinéastes dont les films sont achetés par Netflix sont déçus. Le cinéma d'auteur est dur à trouver sur cette plateforme. Pourquoi Warner n'a-t-il pas diffusé Roma de Cuaron ou Suaron? Cannes le voulait, mais son conflit avec Netflix, son acquéreur, a empêché sa présence sur la croisette. Des mises à niveau s'imposent. Denis Villeneuve vient de terminer avec Philip Roth le scénario de Dune adapté du roman de Frank Herbert, un projet sur lequel Alejandro Jodorowsky s'était cassé les dents sans le voir aboutir. Quant à David Lynch, il en avait livré une adaptation décevante. Et si c'était un projet maudit, comme le Don Quichotte de Terry Gilliam, lui demande-t-on. Je me suis tellement amusée à l'écrire. Jamais je n'avais eu autant de fun créatif avec un scénario depuis Incendie. Alors j'en garderai quand même ce savoir quelque part. C'est donc un article signé Odile Tremblay qui, à Cannes, Denis Villeneuve en son palais. Les framboises québécoises sont arrivées. Stéphane Champagne, aficionado de petits fruits et autres adeptes d'achat local, vous serez ravis. Production Horticole de Mers procède actuellement à la récolte de framboises dans son complexe séricole de Saint-Nicolas, près de Québec. Quoi? Des framboises québécoises en cette saison? Et oui, pour les deux prochains mois, plus besoin de se rabattre sur les framboises importées grâce à cette initiative qui serait une première canadienne. De Mers, connu pour ses tomates, poivrons et concombres en serre, travaille sur ce projet depuis au moins 5 ans. Après une flopée d'essais et d'erreurs, le producteur en serre a enfin trouvé la bonne variété dont il préfère taire le nom et la bonne méthode de culture. Résultat, la PME exploite en ce moment environ 1 acre de framboisier dans un environnement contrôlé. Personne au Québec, au Canada, sinon en Amérique du Nord, ne peut se targuer de cultiver autant de framboises en serre, soutient Jacques Demers, PDG de l'entreprise. Les petits fruits charnus sont déjà offerts au stand de Demers à Saint-Nicolas, dans des fruiteries montréalaises, de même que dans certaines succursales des 3 grandes chaînes de supermarchés, Loblaws Provigo, Métro et Sobeys IGA, lesquelles se sont montrées très enthousiastes, explique M. Demers. Le prix de vente devrait avoisiner les 3,99 $ pour une barquette de 120 grammes. Semblable en apparence à celle cultivée en Californie et au Mexique, quoique légèrement plus foncée et sucrée, la framboise de chez Demers sera par contre d'une fraîcheur inégalée. Nos fruits seront sur les tablettes entre 24 et 48 heures après leur récolte, assure l'agronome entrepreneur. Après les framboises extérieures de l'été prochain, Demers se prévoit récolter d'autres framboises dans ses serres en octobre, novembre et décembre prochains. Si la demande est là et que l'expérience s'avère rentable, dit-il, Jacques Demers souhaite quintupler la superficie de ses framboisiers en serre. Bref, il sera désormais possible de consommer des framboises québécoises 8 mois par année. Par ailleurs, l'homme d'affaires n'exclut pas la possibilité de cultiver également des mûres dans ses installations. À suivre! Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée. Restez avec nous dans un petit moment, j'anime les par actualité. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Je vous retrouve tout de suite ou demain. À bientôt.